la fécondité des variétés croisées et de leurs descendants métis n'est pas universelle. On pourrait alléguer, comme argument écrasant, qu'il doit exister quelques distinctions essentielles entre les espèces et les variétés, puisque ces dernières, quelque différentes qu'elles puissent être par leur apparence extérieure, se croisent avec facilité et produisent des descendants absolument féconds. J'admets complètement que telle est la règle générale. Il y a toutefois quelques exceptions que je vais signaler, mais la question est hérissée de difficultés, car, en ce qui concerne les variétés naturelles, si on découvre entre deux formes, jusqu'alors considérées comme des variétés, la moindre stérilité à la suite de leur croisement, elles sont aussitôt classées comme espèces par la plupart des naturalistes. Ainsi, presque tous les botanistes regardent le mouron bleu et le mouron rouge comme deux variétés. Mais Gärtner, lorsqu'il les a croisés, les ayant trouvés complètement stériles, les a en conséquence considérés comme deux espèces distinctes. Si nous tournons ainsi dans un cercle vicieux, il est certain que nous devons admettre la fécondité de toutes les variétés produites à l'état de nature. Si nous passons aux variétés qui se sont produites, ou qu'on suppose s'être produites à l'état domestique, nous trouvons encore matière à quelques doutes. Car, lorsqu'on constate, par exemple, que certains chiens domestiques indigènes de l'Amérique du Sud ne se croisent pas facilement avec les chiens européens, l'explication qui se présente à chacun, et probablement la vraie, est que ces chiens descendent d'espèces primitivement distinctes. Néanmoins, la fécondité parfaite de tant de variétés domestiques, si profondément différentes les unes des autres en apparence, telles par exemple que les variétés de pigeons ou celles du chou, est un fait réellement remarquable, surtout si nous songeons à la quantité d'espèces qui, tout en se ressemblant de très près, sont complètement stériles lorsqu'on les entrecroise. Plusieurs considérations, toutefois, suffisent à expliquer la fécondité des variétés domestiques. On peut observer tout d'abord que l'étendue des différences externes entre deux espèces n'est pas un indice sûr de leur degré de stérilité mutuelle, de telle sorte que des différences analogues ne seraient pas davantage un indice sûr dans le cas des variétés. Il est certain que pour les espèces, c'est dans des différences de constitution sexuelle qu'il faut exclusivement en chercher la cause. Or, les conditions changeantes auxquelles les animaux domestiques et les plantes cultivées ont été soumis ont eu si peu de tendance à agir sur le système reproducteur pour le modifier dans le sens de la stérilité mutuelle que nous avons tout lieu d'admettre comme vraie la doctrine toute contraire de Pallas, c'est-à-dire que ces conditions ont généralement pour effet d'éliminer la tendance à la stérilité. De sorte que les descendants domestiques d'espèces qui, croisés à l'état de nature, se fussent montrés stériles dans une certaine mesure, finissent par devenir tout à fait fécondes les unes avec les autres. Quant aux plantes, la culture, bien loin de déterminer chez les espèces distinctes une tendance à la stérilité, a au contraire, comme le prouvent plusieurs cas bien constatés, que j'ai déjà cités, exercer une influence toute contraire au point que certaines plantes, qui ne peuvent plus se féconder elles-mêmes, ont conservé l'aptitude de féconder d'autres espèces, ou d'être fécondées par elles. Si on admet la doctrine de Pallas sur l'élimination de la stérilité par une domestication prolongée, et il n'est guère possible de la repousser, il devient extrêmement improbable que les mêmes circonstances, longtemps continuées, puissent déterminer cette même tendance. Bien que, dans certains cas, et chez des espèces douées d'une constitution particulière, la stérilité puisse avoir été le résultat de ces mêmes causes. Ceci, je le crois, nous explique pourquoi il ne s'est pas produit, chez les animaux domestiques, des variétés mutuellement stériles, et pourquoi, chez les plantes cultivées, on n'en a observé que certains cas, que nous signalerons un peu plus loin. La véritable difficulté à résoudre dans la question qui nous occupe n'est pas, selon moi, d'expliquer comment il se fait que les variétés domestiques croisées ne sont pas devenues réciproquement stériles, mais plutôt comment il se fait que cette stérilité soit générale chez les variétés naturelles, aussitôt qu'elles ont été suffisamment modifiées de façon permanente pour prendre rang d'espèce. Notre profonde ignorance à l'égard de l'action normale ou anormale du système reproducteur, nous empêche de comprendre la cause précise de ce phénomène. Toutefois, nous pouvons supposer que, par suite de la lutte pour l'existence qu'elles ont à soutenir contre de nombreux concurrents, les espèces sauvages ont dû être soumises, pendant de longues périodes, à des conditions plus uniformes que ne l'ont été les variétés domestiques, circonstance qui a pu modifier considérablement le résultat définitif. Nous savons en effet que les animaux et les plantes sauvages, enlevés à leurs conditions naturelles et réduits en captivité, deviennent ordinairement stériles. Or, les organes reproducteurs, qui ont toujours vécu dans des conditions naturelles, doivent probablement aussi être extrêmement sensibles à l'influence d'un croisement artificiel. On pouvait s'attendre d'autre part à ce que les produits domestiques, qui, ainsi que le prouve le fait même de leur domestication, n'ont pas dû être, dans le principe, très sensibles à des changements des conditions d'existence, et qui résistent actuellement encore, sans préjudice pour leur fécondité, à des modifications répétées de ces mêmes conditions, dussent produire des variétés moins susceptibles d'avoir le système reproducteur affecté par un acte de croisement avec d'autres variétés de provenance analogue. J'ai parlé jusqu'ici comme si les variétés d'une même espèce étaient invariablement fécondes lorsqu'on les croise. On ne peut cependant pas contester l'existence d'une légère stérilité dans certains cas que je vais brièvement passer en revue. Les preuves sont tout aussi concluantes que celles qui nous font admettre la stérilité chez une foule d'espèces. Elles nous sont d'ailleurs fournies par nos adversaires, pour lesquels, dans tous les autres cas, la fécondité et la stérilité sont les plus sûrs indices de différence de valeurs spécifiques. Gartner a élevé l'une après l'autre, dans son jardin, pendant plusieurs années, une variété naine d'un maïs à grains jaunes et une variété de grande taille à grains rouges. Or, bien que ces plantes aient des sexes séparés, elles ne se croisèrent jamais naturellement. Il féconda alors 13 fleurs d'une de ces variétés avec du pollen de l'autre, et n'obtint qu'un seul épi portant des graines au nombre de 5 seulement. Les sexes étant distincts, aucune manipulation de nature préjudiciable à la plante n'a pu intervenir. Personne, je le crois, n'a cependant prétendu que ces variétés de maïs fussent des espèces distinctes. Il est essentiel d'ajouter que les plantes hybrides provenant des 5 graines obtenues furent elles-mêmes si complètement fécondes que Gartner lui-même n'osa pas considérer les deux variétés comme des espèces distinctes. Giroux de Buzaringue a croisé 3 variétés de courges qui, comme le maïs, ont des sexes séparés. Il assure que leur fécondation réciproque est d'autant plus difficile que leurs différences sont plus prononcées. Je ne sais pas quelle valeur on peut attribuer à ces expériences, mais Sageret, qui fait reposer sa classification principalement sur la fécondité ou sur la stérilité des croisements, considère les formes sur lesquelles a porté cette expérience comme des variétés, conclusion à laquelle Naudin est également arrivé. Le fait suivant est encore bien plus remarquable. Il semble tout d'abord incroyable, mais il résulte d'un nombre immense d'essais continués pendant plusieurs années sur 9 espèces de verbascum par Gartner, l'excellent observateur, dont le témoignage a d'autant plus de poids qu'il émane d'un adversaire. Gartner, donc, a constaté que, lorsqu'on croise les variétés blanches et jaunes, on obtient moins de graines que lorsqu'on féconde ces variétés avec le pollen des variétés de même couleur. Il affirme en outre que, lorsqu'on croise les variétés jaunes et blanches d'une espèce avec les variétés jaunes et blanches d'une espèce distincte, les croisements opérés entre fleurs de couleurs semblables produisent plus de graines que ceux faits entre fleurs de couleurs différentes. M. Scott a aussi entrepris des expériences sur les espèces et les variétés de verbascum. Et bien qu'il n'ait pas pu confirmer les résultats de Gartner sur les croisements entre espèces distinctes, il a trouvé que les variétés dissemblablement colorées d'une même espèce, croisées ensemble, donnent moins de graines, dans la proportion de 86%, que les variétés de même couleur fécondées l'une par l'autre. Ces variétés ne diffèrent cependant que sous le rapport de la couleur de la fleur, et quelquefois une variété s'obtient de la graine d'une autre. Kohlreuter, dont tous les observateurs subséquents ont confirmé l'exactitude, a établi le fait remarquable Q qu'une des variétés du tabac ordinaire est bien plus féconde que les autres, en cas de croisement avec une autre espèce très distincte. Il fit porter ses expériences sur 5 formes, considérées ordinairement comme des variétés, qu'il soumit à l'épreuve du croisement réciproque. Les hybrides provenant de ces croisements furent parfaitement féconds. Toutefois, sur 5 variétés, une seule, employée soit comme élément mâle, soit comme élément femelle, et croisée avec la Nicotiana glutinosa, produisit toujours des hybrides moins stériles que ceux provenant du croisement des 4 autres variétés avec la même Nicotiana glutinosa. Le système reproducteur de cette variété particulière a donc dû être modifié de quelque manière et en quelques degrés. Ces faits prouvent que les variétés croisées ne sont pas toujours parfaitement fécondes. La grande difficulté de faire la preuve de la stérilité des variétés à l'état de nature, car toute variété supposée, reconnue comme stérile à quelque degré que ce soit, serait aussitôt considérée comme constituant une espèce distincte. Le fait que l'homme ne s'occupe que des caractères extérieurs chez ces variétés domestiques, lesquelles n'ont pas été d'ailleurs exposées pendant longtemps à des conditions uniformes, sont autant de considérations qui nous autorisent à conclure que la fécondité ne constitue pas une distinction fondamentale entre les espèces et les variétés. La stérilité générale, qui accompagne le croisement des espèces, peut être considérée non comme une acquisition ou comme une propriété spéciale, mais comme une conséquence de changements de nature inconnue qui ont affecté les éléments sexuels. Comparaison entre les hybrides et les métis, indépendamment de leur fécondité. On peut, la question de fécondité mise à part, comparer entre eux, sous divers autres rapports, les descendants de croisements entre espèces avec ceux de croisements entre variétés. Gardner, quelque désireux qu'il fût de tirer une ligne de démarcation bien tranchée entre les espèces et les variétés, n'a pu trouver que des différences peu nombreuses et qui, selon moi, sont bien insignifiantes, entre les descendants dits « hybrides » des espèces et les descendants dits « métis » des variétés. D'autre part, ces deux classes d'individus se ressemblent de très près sous plusieurs rapports importants. Examinons rapidement ce point. La distinction la plus importante est que, dans la première génération, les métis sont plus variables que les hybrides. Toutefois, Gardner admet que les hybrides d'espèces soumises depuis longtemps à la culture sont souvent variables dans la première génération, fait dont j'ai pu moi-même observer de frappants exemples. Gardner admet en outre que les hybrides entre espèces très voisines sont plus variables que ceux provenant de croisements entre espèces très distinctes, ce qui prouve que les différences dans le degré de variabilité tendent à diminuer graduellement. Lorsqu'on propage pendant plusieurs générations les métis ou les hybrides les plus féconds, on constate dans leur postérité une variabilité excessive. On pourrait cependant citer quelques exemples d'hybrides et de métis qui ont conservé pendant longtemps un caractère uniforme. Toutefois, pendant les générations successives, les métis paraissent être plus variables que les hybrides. Cette variabilité plus grande chez les métis que chez les hybrides n'a rien d'étonnant. Les parents des métis sont en effet des variétés, et pour la plupart des variétés domestiques. On n'a entrepris que fort peu d'expérience sur les variétés naturelles. Ce qui implique une variabilité récente, qui doit se continuer, s'ajouter à celle que provoque déjà le fait même du croisement. La légère variabilité qu'offrent les hybrides à la première génération, comparée à ce qu'elle est dans les suivantes, constitue un fait curieux et digne d'attention. Rien, en effet, ne confirme mieux l'opinion que j'ai émise sur une des causes de la variabilité ordinaire. C'est-à-dire que, vu l'excessive sensibilité du système reproducteur pour tout changement apporté aux conditions d'existence, il cesse, dans ces circonstances, de remplir ses fonctions d'une manière normale et de produire une descendance identique de tout point à la forme parente. Or, les hybrides, pendant la première génération, proviennent d'espèces, à l'exception de celles qui ont été depuis longtemps cultivées, dont le système reproducteur n'a été en aucune manière affecté, et qui ne sont pas variables. Le système reproducteur des hybrides est au contraire supérieurement affecté, et leurs descendants sont par conséquent très variables. Pour en revenir à la comparaison des métis avec les hybrides, Gardner affirme que les métis sont, plus que les hybrides, sujets à faire retour à l'une ou à l'autre des formes parentes. Mais si le fait est vrai, il n'y a certainement là qu'une différence de degré. Gardner affirme expressément, en outre, que les hybrides, provenant de plantes depuis longtemps cultivées, sont plus sujets au retour que les hybrides provenant d'espèces naturelles. Ce qui explique probablement la différence singulière des résultats obtenus par divers observateurs. Ainsi, Max Vichura doute que les hybrides fassent jamais retour à leur forme parente, ces expériences ayant été faites sur des saules sauvages. Tandis que Naudin, qui a surtout expérimenté sur des plantes cultivées, insiste fortement sur la tendance presque universelle qu'ont les hybrides à faire retour. Gardner constate en outre que, lorsqu'on croise avec une troisième espèce, deux espèces d'ailleurs très voisines, les hybrides diffèrent considérablement les uns des autres. Tandis que, si l'on croise deux variétés très distinctes d'une espèce avec une autre espèce, les hybrides diffèrent peu. Toutefois, cette conclusion est, autant que je puis le savoir, basée sur une seule observation et paraît être directement contraire aux résultats de plusieurs expériences faites par Kohlreuter. Telles sont les seules différences, d'ailleurs peu importantes, que Gardner ait pu signaler entre les plantes hybrides et les plantes métisses. D'autre part, d'après Gardner, les mêmes lois s'appliquent au degré et à la nature de la ressemblance qu'ont avec leurs parents respectifs tant les métisses que les hybrides, et plus particulièrement les hybrides provenant d'espèces très voisines. Dans les croisements de deux espèces, l'une d'elles est quelquefois douée d'une puissance prédominante pour imprimer sa ressemblance aux produits hybrides. Il en est de même, je pense, pour les variétés des plantes. Chez les animaux, il est non moins certain qu'une variété a souvent la même prépondérance sur une autre variété. Les plantes hybrides provenant de croisements réciproques se ressemblent généralement beaucoup. Il en est de même des plantes métisses résultant d'un croisement de ce genre. Les hybrides, comme les métisses, peuvent être ramenés au type de l'un ou de l'autre parent à la suite de croisements répétés avec eux pendant plusieurs générations successives. Ces diverses remarques s'appliquent probablement aussi aux animaux. Mais la question se complique beaucoup dans ce cas, soit en raison de l'existence de caractères sexuels secondaires, soit surtout parce que l'un des sexes a une prédisposition beaucoup plus forte que l'autre à transmettre sa ressemblance, que le croisement s'opère entre espèces ou qu'il ait lieu entre variétés. Je crois, par exemple, que certains auteurs soutiennent avec raison que l'âne exerce une action prédominante sur le cheval, de sorte que le mulet et le bardeau tiennent plus du premier que du second. Cette prépondérance est plus prononcée chez l'âne que chez l'ânesse, de sorte que le mulet, produit d'un âne et d'une jument, tient plus de l'âne que le bardeau, qui est le produit d'une ânesse et d'un étalon. Quelques auteurs ont beaucoup insisté sur le prétendu fait que les métisses seuls n'ont pas des caractères intermédiaires à ceux de leurs parents, mais ressemblent beaucoup à l'un d'eux. On peut démontrer qu'il en est quelquefois de même chez les hybrides, mais moins fréquemment que chez les métisses, je l'avoue. D'après les renseignements que j'ai recueillis sur les animaux croisés ressemblant de très près à un de leurs parents, j'ai toujours vu que les ressemblances portent surtout sur des caractères de nature un peu monstrueuse et qui ont subitement apparu, tels que l'albinisme, le mélanisme, le manque de queue ou de cornes, la présence de doigts ou d'orteils supplémentaires, et nullement sur ceux qui ont été lentement acquis par voie de sélection. La tendance au retour soudain vers le caractère parfait de l'un ou de l'autre parent doit aussi se présenter plus fréquemment chez les métisses qui descendent de variétés souvent produites subitement, ayant un caractère semi-monstrueux, que chez les hybrides qui proviennent d'espèces produites naturellement et lentement. En somme, je suis d'accord avec le docteur Prosper Lucas qui, après avoir examiné un vaste ensemble de faits relatifs aux animaux, conclut que les lois de la ressemblance d'un enfant avec ses parents sont les mêmes, que les parents diffèrent peu ou beaucoup l'un de l'autre. C'est-à-dire que l'union ait lieu entre deux individus appartenant à la même variété, à des variétés différentes ou à des espèces distinctes. La question de la fécondité ou de la stérilité mise de côté, il semble y avoir, sous tous les autres rapports, une identité générale entre les descendants de deux espèces croisées et ceux de deux variétés. cette identité serait très surprenante dans l'hypothèse d'une création spéciale des espèces et de la formation des variétés par des lois secondaires. Mais elle est en harmonie complète avec l'opinion qu'il n'y a aucune distinction essentielle à établir entre les espèces et les variétés. Résumé. Les premiers croisements entre des formes assez distinctes pour constituer des espèces et les hybrides qui en proviennent sont très généralement, quoique pas toujours, stériles. La stérilité se manifeste à tous les degrés. Elle est parfois assez faible pour que les expérimentateurs les plus soigneux aient été conduits aux conclusions les plus opposées quand ils ont voulu classifier les formes organiques par les indices qu'elle leur a fournis. La stérilité varie chez les individus d'une même espèce en vertu de prédispositions innées, et elle est extrêmement sensible à l'influence des conditions favorables ou défavorables. Le degré de stérilité ne correspond pas rigoureusement aux affinités systématiques, mais il paraît obéir à l'action de plusieurs lois curieuses et complexes. Les croisements réciproques entre les deux mêmes espèces sont généralement affectés d'une stérilité différente et parfois très inégale. Elle n'est pas toujours égale en degré dans le premier croisement et chez les hybrides qui en proviennent. De même que dans la greffe des arbres, l'aptitude dont jouit une espèce ou une variété à se greffer sur une autre dépend de différences généralement inconnues existant dans le système végétatif. De même, dans les croisements, la plus ou moins grande facilité avec laquelle une espèce peut se croiser avec une autre dépend aussi de différences inconnues dans le système reproducteur. Il n'y a pas plus de raison pour admettre que les espèces ont été spécialement frappées d'une stérilité variable en degré afin d'empêcher leur croissement et leur confusion dans la nature qu'il y en a à croire que les arbres ont été doués d'une propriété spéciale, plus ou moins prononcée, de résistance à la greffe, pour empêcher qu'ils ne se greffent naturellement les uns sur les autres dans nos forêts. Ce n'est pas la sélection naturelle qui a amené la stérilité des premiers croisements et celle de leurs produits hybrides. La stérilité, dans les cas des premiers croisements, semble dépendre de plusieurs circonstances. Dans quelques cas, elle dépend surtout de la mort précoce de l'embryon. Dans le cas des hybrides, elle semble dépendre de la perturbation apportée à la génération par le fait qu'elle est composée de deux formes distinctes. Leur stérilité offre beaucoup d'analogies avec celles qui affectent si souvent les espèces pures lorsqu'elles sont exposées à des conditions d'existence nouvelles et peu naturelles. Quiconque expliquera ces derniers cas pourra aussi expliquer la stérilité des hybrides. Cette supposition s'appuie encore sur un parallélisme d'un autre genre, c'est-à-dire que d'abord, de légers changements dans les conditions d'existence paraissent ajouter à la vigueur et à la fécondité de tous les êtres organisés, et secondement, que le croisement des formes qui ont été exposées à des conditions d'existence légèrement différentes ou qui ont varié favorise la vigueur et la fécondité de leur descendance. Les faits signalés sur la stérilité des unions illégitimes, des plantes dimorphes et trimorphes, ainsi que sur celles de leurs descendants illégitimes, nous permettent peut-être de considérer comme probable que, dans tous les cas, quelques liens inconnus existent entre le degré de fécondité des premiers croisements et ceux de leurs produits. La considération des faits relatifs au dimorphisme, jointe au résultat des croisements réciproques, conduit évidemment à la conclusion que la cause primaire de la stérilité des croisements entre espèces doit résider dans les différences des éléments sexuels. Mais nous ne savons pas pourquoi, dans le cas des espèces distinctes, les éléments sexuels ont été si généralement plus ou moins modifiés dans une direction tendant à provoquer la stérilité mutuelle qui les caractérise. Mais ce fait semble provenir de ce que les espèces ont été soumises pendant de longues périodes à des conditions d'existence presque uniformes. Il n'est pas surprenant que, dans la plupart des cas, la difficulté qu'on trouve à croiser entre elles deux espèces quelconques corresponde à la stérilité des produits hybrides qui en résultent. Ces deux ordres de fait fussent-ils même dus à des causes distinctes. Ces deux faits dépendent, en effet, de la valeur des différences existant entre les espèces croisées. Il n'y a non plus rien d'étonnant à ce que la facilité d'opérer un premier croisement, la fécondité des hybrides qui en proviennent et l'aptitude des plantes à être greffées l'une sur l'autre bien que cette dernière propriété dépende évidemment de circonstances toutes différentes, soient toutes, jusqu'à un certain point, en rapport avec les affinités systématiques des formes soumises à l'expérience. Car l'affinité systématique comprend des ressemblances de toute nature. Les premiers croisements entre formes connues comme variétés ou assez analogues pour être considérées comme telles et leurs descendants métis sont très généralement, quoique pas invariablement féconds, ainsi qu'on l'a si souvent prétendu. Cette fécondité parfaite et presque universelle ne doit pas nous étonner si nous songeons au cercle vicieux dans lequel nous tournons en ce qui concerne les variétés à l'état de nature, et si nous nous rappelons que la grande majorité des variétés a été produite à l'état domestique par la sélection de simples différences extérieures, et qu'elles n'ont jamais été longtemps exposées à des conditions d'existence uniformes. Il faut se rappeler que la domestication prolongée, tendant à éliminer la stérilité, il est peu vraisemblable qu'elles doivent aussi la provoquer. La question de fécondité mise à part, il y a, sous tous les autres rapports, une ressemblance générale très prononcée entre les hybrides et les métis, quant à leur variabilité, leur propriété de s'absorber mutuellement par des croisements répétés, et leur aptitude à hériter des caractères des deux formes parentes. En résumé, donc, bien que nous soyons aussi ignorants sur la cause précise de la stérilité des premiers croisements et de leurs descendants hybrides, que nous le sommes sur les causes de la stérilité que provoque chez les animaux et les plantes un changement complet des conditions d'existence, cependant, les faits que nous venons de discuter dans ce chapitre ne me paraissent point s'opposer à la théorie que les espèces ont primitivement existé sous forme de variétés.